Chapitre 25. La neige n'en finit plus de tomber. Mystique a tellement froid dehors qu'Émile et Johan le font entrer dans l'annexe malgré les consignes d'Hippolyte.
« C'est un chien de berger, il doit endurer le froid !» leur avait-il dit.
Le pauvre chien est bien trop heureux de se rouler en boule devant la cheminée. Le vent siffle entre les pins et s'engouffre par la porte d'entrée dès qu'Émile sort pour chercher quelques bûches de bois. Au fil des jours qui suivent, la cuisine se remplit d'odeurs de petits sablés, de vapeurs d'infusion à l'orange et à la cannelle et de lueurs des bougies que Johan a tenté de faire fabriquer à Émile. Ces quelques jours sont comme une parenthèse hors du temps. Une parenthèse de douceur au milieu de l'hiver et de la neige qui n'en finit plus de les ensevelir. Le matin, il défond, inlassablement, le puzzle de 500 pièces et il s'amuse à le reconstituer. Puis, il s'essaie à des séances de méditation de toutes sortes. Méditation devant un feu de cheminée, méditation devant les flocons de neige, exercice de respiration. Émile fait des efforts surhumains pour progresser. Il aime bien ces moments, pas seulement à cause du calme qui le gagne chaque jour un peu plus, surtout parce que Johan s'applique à être un bon professeur et qu'il aime bien la voir si sérieuse et concentrée. Il mange à peine à midi, rien de très consistant. Une papillote par-ci, une orange par-là. L'après-midi, Johan peint, Émile tente de s'essayer à la cuisine. Un jour, il fait des sablés, un autre, du pain d'épices. Ils prennent leur goûter en buvant du thé. Ils font des soupes. Ils bricolent une nouvelle décoration de Noël. Bientôt, il ne restera plus assez de place sur le rebord de la cheminée et sur celui de la petite fenêtre pour accueillir leurs bougies maison, leurs boules de papier mâché et leurs sapins miniatures fabriqués avec des brindilles de bois. Le sommeil les surprend souvent au milieu de leur chef-d'œuvre ou au cours d'une partie de Monopoly. Les pertes de mémoire d'Émile se multiplient, souvent le matin. Elles ne durent pas longtemps. Il interroge Johan sur le lieu où il se trouve, sur la façon dont ils sont arrivés ici. Johan ne sait jamais vraiment s'il la reconnaît, car il a tendance à la prendre pour Marjorie. Elle aussi avait les cheveux châtains, bien que plus foncés, et des yeux marrons. Mais la ressemblance s'arrête là, d'après les photographies que Johan a pu voir. Il est plutôt gentil avec elle dans ces moments-là. Il demande où est Bastien, si elle a laissé les jumeaux avec lui. Johan ne sait pas qui est Bastien. Elle suppose qu'il s'agit du mari de Marjorie. Elle répond toujours très vaguement
« Il va revenir, il est pas loin. »
Parfois, il plonge plus loin dans le passé et il parle encore du bac qu'il doit réviser, de Renaud qui doit passer le chercher pour aller jouer au foot. Il doit beaucoup aimer Marjorie car il est doux dans ces moments-là, pas comme avec Laura. Johan s'y habitue tout doucement. C'est moins difficile que la première fois. Elle s'efforce de ne pas le contredire, de rester vague. Il revient bien vite à lui. Et ensuite, il semble n'avoir aucun souvenir de ce qui vient de se passer. Il suffit de ne rien laisser paraître et les choses reprennent leur cours. Un matin, pourtant, quelque chose de plus grave survient. Alors que Johan lave la vaisselle en regardant distraitement par la petite fenêtre, elle finit par distinguer une forme brune sur la neige. Il lui faut quelques secondes avant de réaliser qu'il s'agit de vêtements. Et plus précisément, d'un corps dans des vêtements. Un corps allongé sur le sol. Les tasses tombent au fond de l'évier avec vacarme, faisant sursauter Poc près de la cheminée. La porte d'entrée claque. La seconde d'après, Johan est dehors dans ses grosses chaussettes vertes.
« Émile !»
Elle court autant qu'elle le peut dans l'épaisseur de la neige. Mystique vient à sa rencontre, secouant la queue.
« Émile !»
Elle le trouve couché face contre terre, comme s'il avait chuté en avant. Elle a l'impression qu'il pèse des tonnes. Elle crie.
« Émile ! Émile ! Réveille-toi !»
Mais il ne bronche pas. Il est inconscient. Elle saisit ses épaules, le secoue, essaie de le retourner. Elle se maudit d'avoir si peu de force. Mystique court tout autour d'elle en aboyant, comme s'il cherchait à prévenir quelqu'un, un voisin, n'importe qui.
« Émile !»
Elle réfléchit très vite. Elle essaie de ne pas céder à la panique. Elle repart vers l'annexe en courant, revient quelques secondes plus tard avec un drap. Elle s'acharne à genoux dans la neige à faire rouler le corps inerte d'Émile sur ce drap blanc. Lorsqu'elle y parvient, elle s'aperçoit que son visage est rouge violacé, gonflé par endroits. Elle ignore combien de temps il est resté inconscient, le visage dans la neige. Elle n'est que trop soulagée de constater qu'un souffle tiède sort encore de son nez. Elle se remet debout, repousse Mystique qui jappe à tout va dans ses jambes, et elle s'efforce de traîner le drap dans la neige avec le corps d'Émile dessus. C'est lourd, mais elle s'acharne 5 bonnes minutes. Ensuite, elle s'écroule dans l'entrée, contre la porte, à bout de force. Elle se laisse quelques secondes pour se remettre du choc, de l'effort qu'elle vient de fournir. Elle laisse la chaleur de l'annexe l'envahir doucement. Émile respire. Il est là, allongé sur son drap blanc sur le sol de l'entrée. Et elle a une vision furtive, une vision glaçante de ce même corps allongé sur un même linceul blanc dans peu de temps. Sauf qu'il ne respirera plus. Elle est obligée de fermer les yeux pour chasser cette image, pour éloigner toutes celles qui pourraient surgir. Mais c'est trop tard. L'image est là. Une forêt en plein été. Un lac sauvage, d'un bleu noir profond et inquiétant. Un lac entouré de ronces et d'herbes hautes. L'eau est immobile. La surface est parfaitement lisse. Il y flotte des branches, des plaques de vase et quelques feuilles. Il y flotte un corps. Un tout petit corps au milieu de ce lac. On n'en voit que la tête, blonde, et un t-shirt blanc. Quelqu'un la retient sur le rivage. Quelqu'un qui crie à son oreille « Calme-toi, Johan !» en l'enserrant de plus en plus fort. Elle ne s'entend pas hurler pourtant. Elle sent juste une tempête à l'intérieur de sa poitrine. Quelque chose qui ravage tout, qui détruit son monde. Des hommes sont dans l'eau, des hommes attrapent son petit. Elle hurle à plein poumon.
« Laissez-le ! Laissez mon petit tranquille !»
La voix à son oreille dit des choses, elle ne comprend pas tout.
« Ils nous le ramènent ! Ils vont te le ramener ! Calme-toi, Johan !»
On l'empêche de bouger. Un des hommes porte Tom dans ses bras. Tom est tout mouillé. Il a les yeux fermés comme s'il dormait. Elle s'effondre à demi sur le sol, mais elle ne sent pas ses genoux se briser contre les grosses pierres. Elle sait juste qu'elle tend les bras en avant, qu'on lui dépose Tom sur le sol devant elle. Mais les hommes sont tout autour. Ils l'empêchent de prendre Tom dans ses bras et de repartir avec lui, loin, très loin d'ici, loin de ce fichu lac et de Léon. La peau de Tom est glacée, son nez est tout dur. Elle griffe, elle donne des coups à tous ces hommes autour d'elle. Tous ceux qui l'empêchent de reprendre son petit, de l'emmener loin d'ici.
Ils l'ont sorti de l'eau. Essaie de te calmer, Johan.
Elle meurt tout doucement sur la rive. Elle meurt en regardant les hommes en noir repartir, emmener son petit avec eux, l'enfermer dans ce camion. Elle meurt face contre terre, criblée de douleur, en espérant ne plus jamais se réveiller. Elle sent qu'on l'enserre encore. Qu'on l'appelle encore, qu'on répète encore
« Johan, Johan, calme-toi !»
Elle n'est plus dans la forêt. Le sol est froid et dur. Elle est dans le couloir de l'annexe. C'est Émile qui la prend dans ses bras. C'est lui qui parle. Elle, elle est recroquevillée contre la porte, les mains sur les oreilles. Les larmes ont inondé son visage. Elle se balance d'avant en arrière, elle respire difficilement.
Arrête, Johan, ça va aller.
Il essaie d'écarter ses mains de ses oreilles et elle comprend pourquoi. Elle s'est griffé les joues. Elle s'est lacéré la peau. Émile supplie.
Johan, arrête. Je suis là, s'il te plaît.
Elle se laisse enserrer. Elle essaie de reprendre son souffle.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Elle répond par petites saccades.
Ils ont emmené Tom.
Il reste assis dans l'entrée froide de l'annexe. Ni l'un ni l'autre n'a la force de se mettre debout, de marcher jusqu'à la chambre. Émile recouvre le corps de Johan du drap blanc sur lequel il s'est réveillé, car elle tremble de tous ses membres, comme ce soir-là quand il l'a retrouvée sur la plage.
« Parle-moi de Tom. »
Elle relève la tête vers lui, des yeux effarés. Ses joues sont barbouillées. Ses lèvres s'entr'ouvrent pour demander.
Quoi ?
Il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Tout ce qu'il veut, c'est qu'elle arrête de trembler et de suffoquer. Alors il répète « Parle-moi de Tom ». Puis il ajoute en s'efforçant de sourire, un sourire vacillant. « Tu as dit que c'était un petit garçon surprenant, le plus intelligent que tu aies connu. » Il guette son visage avec anxiété. Elle a cessé de se balancer d'avant en arrière. Elle semble hésiter. Puis elle finit par murmurer
« D'accord ».
C'est ainsi qu'il se retrouve transporté à Saint-Suliac, dans la maisonnette en pierre entourée d'un potager, par un beau soir de début d'été. Johan est allongé dans le canapé, son gros ventre rond pointant vers le plafond, et un vent de panique souffle dans le petit salon. Léon s'active, ramasse un vêtement au sol, un trousseau de clés sur la table, fourre le tout dans un grand sac de voyage. Joseph fait irruption depuis l'extérieur, un béret vissé sur le crâne.
Ça y est, le moteur est en haute. Tu peux la faire monter.
Johan est pâle, son visage est couvert de sueur et son front se crispe par moments. Les premières contractions sont là, de plus en plus régulières. C'est le moment de partir à l'hôpital. Émile est surpris qu'elle ait choisi de lui raconter l'histoire de Tom Blue depuis leur première rencontre dans la salle d'accouchement. Mais il la laisse parler, car elle est plus calme maintenant. Elle respire mieux. Léon a abandonné le volant car il était trop nerveux pour conduire. C'est Joseph qui a pris le relais. Il est calme, comme Johan. Il sourit avec sérénité. Il sifflote en conduisant.
« C'est une belle journée pour accueillir le petit Tom »,
déclare-t-il en regardant Johan dans le rétroviseur. Ils ont déjà choisi son prénom. En réalité, c'est Johan qui l'a choisi. Tom, à cause de Tom Pouce, un de ses contes pour enfants préférés. C'est l'histoire d'un couple âgé qui n'a pas pu avoir d'enfant et qui en vient à souhaiter avoir un enfant quelle que soit sa taille, même s'il ne doit être pas plus grand qu'un pouce. Tom naît miraculeusement et reçoit le nom de Tom Pouce car il est aussi grand que ce dernier. Malgré sa petite taille, il réalise toutes sortes d'exploits, le plus spectaculaire étant de réchapper à la mort après avoir été avalé par une vache. L'histoire fait un bond en avant. On retrouve Johan, Léon et Tom dans la véranda qui donne sur le potager coloré. Tom est un bébé extrêmement calme, qui ne pleure presque pas. Léon est mort d'inquiétude et se demande si c'est bien normal. Johan est sereine. Elle réplique qu'elle est certaine que Tom Pouce ne pleurait pas, lui non plus. Ils ont installé un petit berceau dans la véranda, mais Tom n'y dort jamais. Johan tient à la voir auprès d'elle les premiers jours. C'est un bébé calme, au duvet blond sur le crâne, aux yeux bleus foncés qui tirent déjà sur le marron. Il est enroulé en permanence dans le pagne orange vif que Johan a porté pendant sa grossesse. Léon est maladroit avec lui, mais Johan est patiente. Elle lui apprend à le tenir dans ses bras, à lui changer sa couche, à le bercer. Joseph se tient en retrait. Il sait qu'ils ont besoin de prendre leur marque tous les trois. Ils sont toujours dans la véranda et des coups sont frappés à la porte un peu durement. Léon blêmit. Il explique rapidement à Johan dans un murmure étouffé.
« Ça doit être ma mère. Elle a demandé à voir Tom trois fois déjà. J'ai fait le mort. »
Johan ne dit rien. Pourtant, elle se souvient de la réaction de Madame André quand elle a découvert sa grossesse.
« Il n'a pas pu nous faire ça. »
Maintenant que Tom est là, Madame André exige de recevoir son dû, un droit de visite à sa descendance. Monsieur et Madame André arrivent dans la véranda, encadrés d'un Joseph au visage dur et réfractaire. Léon est blanc comme un linge. Il danse d'un pied sur l'autre.
« Bonjour, Johan », lance Madame André avec sa froideur habituelle.
Johan resserre ses bras autour du petit homme. Elle recule imperceptiblement.
Nous venons voir notre petit-fils.
Le silence est lourd dans la véranda. Joseph ne bouge pas. Il est immobile sur le seuil de la pièce. Léon reste près de Johan et du petit, comme pour faire barrage entre ses parents et eux.
Je peux ?
Demande Madame André en tendant une main vers le bébé. Johan acquiesce, mais elle garde Tom dans ses bras bien serrés. Monsieur et Madame André se penchent au-dessus du bébé, prennent ses mains minuscules entre leurs gros doigts, caressent sa joue. Leur visage d'ordinaire si dur et si mesquin s'anime d'une joie qui n'est pas feinte.
C'est le portrait de Léon, non ?
Parfaitement.
J'ai l'impression que c'est lui, bébé.
Ils ignorent superbement Johan, qui refuse de lâcher Tom.
Il a ses yeux.
Et son nez aussi, non ?
Léon ne dit pas un mot. Il est nerveux.
Cet enfant est bien silencieux. Il ne pleure jamais.
Il s'adresse à leur fils qui hausse les épaules.
Pas beaucoup, non.
Johan reste impassible.
Quel est ce tissu sale ?
Interroge Madame André en fronçant le nez avec dégoût.
Il va attraper des microbes, il faudrait le passer en machine.
C'est un pagne,
répond Léon maladroitement.
Un quoi ?
Johan pense que ça rassure le petit d'avoir son odeur.
Personne ne fait de commentaire. Joseph démontre son irritation en produisant un claquement avec sa langue. Johan recule d'un pas, affirme.
Il a besoin de dormir.
Le malaise grandit encore dans la véranda. Madame André remonte son sac à main sur son épaule avec un geste agacé.
Très bien, nous y allons.
Johan les regarde partir avec un soulagement indicible. Joseph reste dans la véranda. Léon les raccompagne à la porte, plus mal à l'aise que jamais. Ils ne font aucun effort pour parler tout bas quand ils déclarent sur le perron
« C'est notre petit-fils. Elle ne nous empêchera pas de le voir. »
Léon ne trouve rien d'autre à répondre que
« À la prochaine. »
Émile fronce les sourcils sans comprendre. « Qu'est-ce qui s'est passé avec Léandré pour que vos relations soient si tendues ?» Johan demande, avec une voix faible, s'ils peuvent s'installer à la cuisine, s'il peut lui faire un thé. Ensuite, elle lui racontera. L'eau bout en formant de grosses bulles dans la casserole en fonte rouillée de la petite cuisine. Johan est installé sur une chaise en bois. Émile est allé lui chercher un de ses pulls qu'il lui a passé. Lui aussi s'est emmitouflé dans une veste. Il a froid. Quand il s'est réveillé tout à l'heure sur ce drap blanc, il mourait de froid. Il n'a pas demandé à Johan ce qui s'est passé, mais il a deviné. Il était parti chercher du bois dehors. Il a dû faire un malaise. Il apporte la casserole brûlante sur la table avec des gestes lents, puis il verse l'eau dans les tasses. Quand il prend place en face de Johan, elle recommence à parler. Elle évoque le bureau de tabac, les chuchotements sur leur passage que Joseph feignait d'ignorer. Elle raconte le premier repas chez Léandré et les interrogations mesquines, puis la scène digne d'un mélodrame sur le marché devant le stand de la fleuriste. « Et après ça ?» interroge Émile doucement en lui tendant sa tasse. « Léandré sont revenus à la charge ?»